Vous êtes avec SBS French.
Les cas de COVID-19 continuent de grimper en Nouvelle-Galles du Sud avec 16 nouveaux cas répertoriés. Les autorités du Victoria confient d'avoir maîtrisé la propagation du virus, mais se refusent de confirmer la date de levée du confinement. À Haïti, funérailles hier du président Jovenel Moïse assassiné, alors qu'en France, le Parlement passait la loi sur le pass sanitaire. Les cas de COVID-19 continuent d'augmenter en Nouvelle-Galles du Sud avec 163 cas acquis localement recensés ce samedi. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, a déclaré qu'il s'agit d'un problème persistant et croissant, en particulier dans le sud-ouest de Sydney.
I want to stress again that when we look at the numbers, what we see is transmission particularly as a result of family members getting together when they just should not be getting together. Out of that 163 cases, there were 66 cases that arose directly as a result of being household contacts. And very worryingly, 45 were infectious out in the community.
Et il faut signaler que la Nouvelle-Galles du Sud a battu un nouveau record de tests quotidiens avec 93 tests effectués hier. Dans les 5 zones soumises à des restrictions plus strictes, Canterbury, Bankstown et Bankstown avaient les plus de cas, soit 44 et 34 respectivement. 26 cas ont été enregistrés à Cumberland et 15 à Blacktown, les dernières zones soumises à des restrictions, et 6 cas ont été répertoriés à Liverpool. Seuls les travailleurs autorisés sont autorisés à quitter ces localités et les travailleurs de Fairfield doivent se faire tester tous les 3 jours pour pouvoir se rendre au travail. Et la mort d'un homme de 80 ans qui est mort hier a également été inclus dans les chiffres d'aujourd'hui, portant à 6 le nombre total des décès au cours de cette vague épidémique. Et l'Australie méridionale a enregistré un nouveau cas de COVID-19 lié à d'autres cas dans un vignoble au nord-est d'Adélaïde. La personne était en quarantaine et cela porte à 16 le nombre de cas pour toute l'Australie méridionale pour la vague épidémique en cours. L'Australie méridionale est entrée dans le quatrième jour d'un confinement de 7 jours et le premier ministre de l'Australie méridionale, Stephen Marshall, estime que l'État est sur la bonne voie pour pouvoir lever les restrictions sanitaires sans délai supplémentaire. De son côté, le Victoria a enregistré 12 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement, tous liés à des foyers existants. 10 des nouveaux cas étaient en quarantaine pendant toute leur période infectieuse. Un peu moins de 40 000 tests ont été effectués au Victoria hier, alors que l'État surveille de près les chiffres au cours du week-end. Les chiffres des prochains jours détermineront si le confinement sera levé à la date prévue, soit mardi 27 juillet. Entre-temps, depuis hier, le Victoria a placé la Nouvelle-Galles du Sud sous la catégorie de zone rouge. Ainsi, les voyageurs en provenance de Nouvelle-Galles du Sud non résidents du Victoria seront renvoyés, sauf s'ils font partie d'un nombre limité de personnes pouvant bénéficier d'une exemption, laquelle ils doivent demander avant leur arrivée. Les résidents seront, quant à eux, mis en quarantaine à l'hôtel pendant 14 jours, mais les personnes qui arrivent sans permis se verront imposer une amende pouvant aller jusqu'à 5 452 $. Les règles strictes de la zone rouge s'appliquent à l'Australie méridionale, au territoire de la capitale australienne et à l'île de Norfolk. Et la première ministre néo-zélandaise a annoncé la décision de son pays de suspendre la bulle de voyage entre son pays et l'Australie pour une période d'au moins 8 semaines. À partir d'hier, à minuit, les Australiens ne peuvent plus entrer en Nouvelle-Zélande sans quarantaine. Selon la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit de prolonger la suspension s'il le faut.
In the view of our health officials, there is greater risk now from the Delta variant than there was when we opened the quarantine-free travel arrangement with Australia. It is the government's duty to keep New Zealanders safe from COVID-19, and we continue to believe that the strongest health response is also the strongest economic response.
Ainsi, des vols de retour seront affrétés au cours des 7 prochains jours pour permettre aux citoyens résidents néo-zélandais de rentrer chez eux. Et le principal organisme consultatif australien sur la vaccination a déclaré qu'il prévoyait de recommander la vaccination des adolescents âgés de 12 à 16 ans contre le COVID-19 d'ici la semaine prochaine. La Therapeutic Goods Administration a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants de ce groupe d'âge et le feu vert final revient désormais au groupe consultatif technique australien sur les vaccinations. S'exprimant devant un comité sénatorial, Chris Blight du groupe consultatif Atagi a déclaré que son groupe était en train de préparer ses recommandations cliniques.
We will be and have already spoken to a number of the international, other countries that are looking at rolling out programs in adolescents to understand their thinking and importantly, understanding our local epidemiology. Particularly, are there groups of children at particular risk who should be prioritised ahead of a broader program?
Mais le ministre de la Santé, Greg Hunt, a exprimé l'espoir de voir la vaccination des adolescents commencer plus tard cette année. Et hier, Haïti a enterré son président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier à son domicile. Les funérailles ont eu lieu à Cap-Haïtien, dans le nord du pays, d'où il était natif, en présence de ministres, de politiques et de diplomates, dans une atmosphère tendue. Reportage depuis Port-au-Prince avec Ginelle Affontan pour RFI.
C'est important pour moi d'assister aux funérailles du président de mon pays, mais vu la recrudescence de l'insécurité, pour aller à Cap-Haïtien, je dois réfléchir, même si j'aimerais y être.
Si Edwin Daniel Zini, ex-sénateur du département du Sud-Est d'Haïti, hésite à assister aux obsèques du président Jovenel Moïse pour des raisons d'insécurité, pour l'ancien vice-délégué de l'arrondissement du Jamel, Fednel Zidor, son absence est une affaire d'appartenance politique.
Je n'ai jamais été partisan de Jovenel Moïse. Je n'ai pas voté pour lui et je ne fais pas partie de son équipe. Donc je ne pense pas que ma présence à ses funérailles soit importante.
En revanche, pour Jean-Elson Royal, actuel en vice-délégué de l'arrondissement de Jamel, c'est un impératif de rendre un dernier hommage au président défunt.
C'est le président lui-même qui m'a choisi comme vice-délégué. En plus, c'est moi qui ai coordonné sa campagne au niveau du département du Sud-Est. Enfin, on avait développé une solide relation pendant les 5 à 6 dernières années, donc ma présence est incontournable à son inhumation.
En marge des funérailles, la mairie de Jamel organise plusieurs célébrations dans la cité d'Altibiade en Pomérac.
Et hier, le pass sanitaire a été voté en France après une nuit de débat à l'Assemblée nationale. Plus de 1000 amendements ont été examinés depuis mercredi. Et adopté à 117 voix pour et 86 contre, le projet de loi prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire aux bars, cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance. D'autres lieux pourront s'ajouter à cette liste par la suite, si nécessaire, selon la situation épidémique. Et toujours en France, retour sur l'affaire Pegasus, et bien Emmanuel Macron figure parmi les cibles du listing marocain du logiciel Pegasus. Et selon les nouvelles révélations de Forbidden Stories, publiées en milieu de semaine, il s'avère que ces révélations ternissent les relations bilatérales entre Rabat et Paris. Mais va-t-on assister à une crise diplomatique entre la France et le Maroc? Rien n'est moins sûr. Bruno Garou, RFI.
Eh bien, on n'en est pas là. Du côté de l'Élysée, on explique qu'il faut d'abord enquêter pour voir si le Maroc est impliqué dans le ciblage des téléphones portables de plusieurs personnalités politiques françaises, dont celui du président de la République. Le Maroc, de son côté, dément toute implication dans ce dossier Pegasus et passe à la contre-attaque. Rabat a déposé des plaintes en diffamation contre Forbidden Stories et Amnesty International. Il a annoncé également une enquête sur ces accusations infondées selon lui, accusations selon lesquelles il a utilisé le logiciel Pegasus à des fins d'espionnage. D'où l'extrême prudence de l'Élysée pour l'instant, qui se contente d'utiliser le conditionnel sur le thème « si les faits étaient avérés, ils seraient bien sûr très graves ».
C'était Bruno Gao pour RFI. Et les États-Unis ont appelé les talibans à s'engager dans des négociations sérieuses, tout en signalant qu'il n'y aura pas de paix en Afghanistan tant que la mise en place d'un gouvernement n'aura pas été négociée. Les talibans veulent la destitution du président Ashraf Ghani. Cependant, la porte-parole adjointe du département d'État américain, Jalina Porter, a rappelé qu'il fallait des discussions diplomatiques sérieuses sur la question.
The Taliban ban must go beyond issuing statements denying territorial offenses and targeted attacks. If this is truly not Taliban policy, their leadership should condemn these atrocities and violations of basic rights. We call on the Taliban to engage in serious negotiations to determine a political roadmap for Afghanistan's future that leads to a just and durable settlement.
Les talibans, il faut le signaler, ont capturé plus de territoires ces dernières semaines. Ils se sont emparés notamment des postes frontières stratégiques et menacent un certain nombre de hauts lieux provinciaux. Des avancées qui surviennent alors que les derniers soldats américains et de l'OTAN quittent l'Afghanistan. Et le ministre italien de la transition écologique, Roberto Cingolani, a clôturé le sommet du G20 de deux jours à Naples. Il a profité de l'occasion pour souligner que pour la première fois, les pays riches ont accepté de lier le climat à la politique énergétique.
Abbiamo ottenuto un accordo che credo sia assolutamente.
I wanted to stress that for the first time the G20 accepts that climate and energy politics are closely connected. When you talk about the climate and link it to energy politics and industrial choices, structural choices of major countries, you understand this is a very delicate issue. This is not something you can lightly address. All of them are very aligned to the Paris Agreement and all are sure to honor the Paris targets.
Monsieur Cingolani a également souligné que certains pays ont l'intention d'aller encore plus vite que le délai fixé par l'accord de Paris et la majorité des pays du G20 veut limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Un objectif plus ambitieux que celui qui avait été conclu dans l'accord de Paris. Cependant, il a ajouté que les problèmes rencontrés lors des négociations avec la Chine, l'Inde et la Russie avaient entraîné la suspension des pourparlers à plusieurs reprise. Et retour en Australie avec un coup d'œil météo pour ce samedi. Perth 18 degrés, Adélaïde 13, Melbourne 13, Hobart 13 également, Canberra 10 degrés, Wollongong 18, Sydney 18, Newcastle 18 également, Brisbane 23 degrés, Cairns 29 et Darwin 31 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, les cas de Covid-19 continuent de grimper en Nouvelle-Galles du Sud avec 16 nouveaux cas répertoriés aujourd'hui. Les autorités du Victoria confirment d'avoir maîtrisé la propagation du virus mais se refusent de confirmer la date de levée du confinement. Et à Haïti, funérailles hier du président Jovenel Moïse alors qu'en France, le Parlement passait la loi sur le pass sanitaire.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.